Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur. Une émission qui, comme tous les dimanches, comprend un plat du jour et une madeleine. La madeleine aujourd'hui du cinéaste Éric Toledano, qui partagera avec nous l'émotion gustative de son enfance. Et un plat du jour en forme de réflexion. Réflexion sur la valeur de ce qu'on mange. En septembre dernier, nous avions consacré une émission au droit à bien manger et à l'idée de sécurité sociale de l'alimentation qui fait son chemin. Eh bien, aujourd'hui peut être considéré comme un second volet en partage avec les plus démunis de nos concitoyens, toujours plus nombreux si l'on en croit les chiffres des associations d'aide alimentaire, puisqu'on dépasse aujourd'hui les 9 millions de personnes. Plus de 2 millions de Français, rien que depuis le début de l'année 2021, ont eu recours à l'aide alimentaire. L'assiette en partage, c'est donc notre plat du jour, un plat du jour inspiré par un livre qui vient de paraître aux éditions Actes Sud dans la collection Domaine du Possible et qui a pour titre « Ensemble pour mieux se nourrir ». Les deux auteurs sont avec nous, ou plutôt deux auteurs sur trois, car il y a eu un homme de l'ombre qui a été le coach de nos deux invités du jour, on verra ça dans un instant. Frédéric Danhé est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes ingénieur écologue de formation, chroniqueur, auteur de plusieurs livres sur l'alimentation. Je vais en citer quelques-uns. Alimentation, stop à la désinformation chez Rustica Édition. Acheter bio, point d'interrogation, à qui faire confiance chez Albin Michel. Et La cause végane, un nouvel intégrisme, à nouveau point d'interrogation chez Bûcher Chassel. Les trois ont paru en 2019. Dis donc, vous avez produit pendant cette année-là. Et puis le 20 mai paraîtra Rencontre avec des écolos remarquables chez Delachaux et Nieslé. Avec nous également en studio, Alexis Génie, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes écrivain. Vous avez remporté le prix Goncourt en 2011 pour l'art français de la guerre chez Gallimard. Chez Gallimard, votre dernier roman paru a pour titre La beauté dure toujours. Vous avez aussi collaboré, puisque vous avez fait des livres liés à l'alimentation et peut-être à la pauvreté également. Mais d'abord, un livre auquel vous avez collaboré, qui a pour titre Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs, chez Albin Michel, et qui était né de concours de cuisine organisé par l'association VRAC, qui est très importante pour ce nouvel ouvrage avec Frédéric. Éric Danhé, nous y reviendrons. Et tous les deux, donc, vous avez quand même écrit des livres sur l'alimentation, alors que ça n'est pas votre principal métier, en particulier pour vous, Alexis Génie. Déjà, d'où cela vient, Alexis Génie ?
Peut-être parce que ça m'intéresse aussi, l'alimentation. Alors, c'est aussi c'est une histoire d'amitié. C'est-à-dire, c'est la rencontre avec Boris Tavernier dont vous avez parlé.
Le président de l'association.
Le président de l'association VRAC, que j'ai connu à Lyon. Bon, je l'avais connu, un peu par hasard parce que j'allais écrire dans le restaurant qu'il tenait, parce qu'il y avait des belles tables. Et pendant la journée, j'allais écrire là-bas. Et, on a commencé à faire ce livre, en effet, Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs, qui était la cuisine des femmes des cités. Et donc moi je racontais des rencontres comme ça avec des femmes qui nous faisaient à manger et qui nous racontaient des histoires d'immigration. Et puis après on a eu ce nouveau projet. Là, c'est simplement parce que c'était le Secours catholique qui voulait que Boris, en tant que directeur de VRAC, fasse quelque chose, un document, un livre sur les groupements d'achat. Et il a fait appel à moi et à Frédéric, moi pour écrire des rencontres et à Frédéric pour réfléchir. Et c'est lui qui réfléchit.
C'est lui qui réfléchit, c'est vous qui écrivez. Ok, d'accord.
Et donc, puis on s'est dit très vite que on ne pouvait pas faire un manuel des groupements d'achat, il fallait y voir parce que c'était très divers. Et donc d'où ce tour de France que nous avons fait. Alors pourquoi ça m'intéresse ? Parce que pour moi l'écriture, elle sert à tout. Elle peut servir au roman, où je vais essayer d'attraper un peu d'intime. Elle peut servir à expliquer des choses, raconter des choses. Ça, c'est ma partie essai dans mes livres. Et puis aussi, ça permet de raconter tout bêtement ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, etc. Et ça me passionne. Comment vivent les gens? C'est quelque chose qui me passionne. Donc, du coup, aller voir comment ça se passe dans un domaine où je connais pas grand chose, c'était vraiment pour moi une grosse motivation.
Frédéric Danhé, la réponse à ma question, pourquoi écrivez-vous l'un et l'autre des livres sur l'alimentation, pas nécessairement ensemble aussi, puisque c'est le premier livre que vous faites ensemble, mais la réponse à cette question, je crois, pour vous, tient dans ce que vous dites, puisque c'est vous qui avez réfléchi, nous dit Alexis Génie, à ce livre, à ce que vous dites dans le livre, Ensemble pour mieux se nourrir, à savoir que on est ce qu'on mange, quoi. Donc l'alimentation, effectivement, et c'est le principe même des bonnes choses, c'est énormément à la fois la culture, de l'anthropologie, et ça dit quelque chose de ce qu'on est. C'est un peu ça l'idée.
C'est ça, ça dit quelque chose de la société, ça dit quelque chose de ce qu'on est. L'assiette est dans le pré, ce qu'on met dans l'assiette indique les paysages que l'on veut et puis indique qui l'on est, on se reflète dans ce que l'on mange. Et une fois, en fait, tout est parti pour moi d'une réflexion que j'avais eue avec Perico Legas, critique gastronomique, qui à l'occasion des attentats, enfin de l'attentat contre Charlie, me disait mais qu'est-ce que ces gens ont pu mal manger pour être devenus aussi méchants. Ça paraissait naïf, mais en fait c'est fondamental. Effectivement, qu'est-ce que ces gens étaient, qu'est-ce qu'ils ont pu manger, dans quel environnement ont-ils pu vivre pour commettre un tel acte. Derrière tout ça, c'est quand on est riche, quand on est pauvre, on mange pas la même chose. Et parce qu'on mange pas la même chose, est-ce qu'on devient ce que l'on mange ? Et ce qu'on a découvert avec Alexis, c'est que ben oui, quand on est pauvre, quand on n'a pas les moyens, on achète un certain type de nourriture, et ce certain type de nourriture, en fait, peut nous maintenir, dans la pauvreté, c'est-à-dire dans une très mauvaise image de nous-mêmes, parce que nous-mêmes, pauvres, nous sommes à l'extérieur de la société, on est au bord du chemin, et en plus, ce que l'on mange, compte tenu de nos moyens et compte tenu de ce que le marketing, la publicité, le système agroalimentaire nous incite à manger, compte tenu de ce que le système de l'aide alimentaire nous met dans nos colis, bah finalement, on est nourri avec des nourritures que les autres n'ont pas voulu. Donc, comme s'il y avait, comme si la boucle était bouclée. Nous sommes rejetés par la société, nous mangeons des rejets de la société. Et donc, l'aspect symbolique de la nourriture, là, est parfaitement représenté. Et c'est une forme de... Enfin, c'est terrifiant quand même. Comme si l'on était condamné à être l'image que la société nous renvoie. Et puis moi je parle un tout petit peu d'expérience parce que je suis issu de basse extraction. Mes grands-parents étaient pauvres et ben ils pouvaient pas manger grand-chose, ils avaient pas grand-chose à mettre dans leur assiette. Ils tenaient à nourrir leurs enfants avec de la viande par exemple, parce que pour eux c'était le signe qu'ils étaient pas dans la misère, mais voilà, ils mettaient pas grand-chose, ce qui leur prouvait qu'ils étaient en marge de la société, en tout cas différents des bourgeois qui eux pouvaient acheter des légumes tous les jours et de la viande tous les jours.
Or ce n'est pas Alexis Génie, parce qu'on est pauvre, qu'on doit nécessairement mal manger. L'accès à une alimentation digne et durable devrait être un objectif politique majeur. C'est l'un des enjeux de votre livre.
Alors, c'est vrai que, comme l'a dit Frédéric, là, manger, c'est pas du remplissage. Manger, c'est un fait anthropologique et culturel très, très complexe. Et il se trouve que l'être humain ne mange pas n'importe quoi. Il y a des règles. Il y a des règles qui sont culturelles, il y a des règles esthétiques, etc. Et ce qu'on a vu dans tout ce système d'aide alimentaire, caritatif, c'est plein de bonne volonté. C'est heureusement que ça existe. On est d'accord.
C'est important de le dire.
Non, tout à fait. C'est essentiel. Et puis, il y a des gens qui sont dedans, qui sont des gens super investis, etc. Mais après, il y a ce côté qu'on a entendu plusieurs fois, du genre, les gens qui viennent chercher leur colis alimentaire, ils sont pas toujours reconnaissants, ils rouspètent un peu, ils trouvent que ça va pas, ils trouvent que... Je raconte l'anecdote dans le livre. On dit, quelqu'un qui nous dit, parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas à placer, par exemple des choses qui contiennent de la charcuterie, et qui conclut en disant, quand on a faim, on peut imaginer qu'on passe par-dessus certaines choses. Certaines choses, c'est quoi? C'est le rôle symbolique de la nourriture. Tout le monde a ça.
Il faut quand même que vous nous expliquiez l'un et l'autre pour qu'on comprenne bien d'où viennent les produits qui sont distribués par les associations d'alimentaires, pour qu'on comprenne la critique qui est contre-intuitive, en effet, de ce que...
Alors, ça part d'une bonne intention. Ça date des années 80. On voit qu'il y a des surplus agricoles dont on ne sait pas trop quoi faire. Et puis également, les supermarchés jettent un certain nombre de choses.
Bon, leurs invendus.
Donc, on se dit, c'est pas bien de jeter tout ça, alors qu'il y a des gens qui ont faim, qui ont peu de moyens. Donc, on va organiser des banques alimentaires qui vont rassembler tous ces surplus et les redistribuer aux associations de distribution, les Restos du Cœur et compagnie. Bon, très 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 bien. Sauf deux problèmes. Premier problème, c'est que les invendus, c'est les non voulus. C'est ce qui reste. Et on se rend compte que, par exemple, il y a toute une quantité de junk food, d'aliments vraiment de basse qualité nutritionnelle, qui sont distribués comme ça. Et là ça pose un problème, d'autant plus que ça fait que la grande distribution et l'agro-industrie se pose pas le problème de savoir si ça se vend, si ça se vend pas, si c'est bien, si c'est pas bien. Continuons à en faire, parce que de toute façon, les surplus, ils seront donnés. Et puis, il y a ce fonds européen d'aide aux plus démunis, qui est doté de plusieurs milliards, qui lance des appels d'offres pour créer de l'alimentation qui sera donnée aux banques alimentaires. Donc, t'as des plats cuisinés, des choses comme ça, mais qui sont faits avec la qualité la plus basse. Et il y a des choses qui sont... on a vu des gens qui étaient dans les associations de distribution qui disaient « c'est immangeable ». Et il y a eu le scandale des steaks hachés sans viande, qui est extraordinaire. Moi, on en a beaucoup parlé. Ces steaks hachés qui étaient faits de peau, de tendons, de graisse, de soja, etc. Bon, il y avait pas un gramme de viande dedans. C'est sûr qu'ils ont remporté l'appel d'offres, ceux qui ont fabriqué ça. Mais c'était de la nourriture, c'était même pas de la nourriture pour animaux. Et là, ça pose un vrai problème, parce que ce système-là, en ayant des appels d'offres et remportés par les moins 10 ans, on va à la fausse nourriture.
On entretient, Frédéric Danhé, la mauvaise nourriture, la malbouffe, pour le dire clairement, parce que la grande distribution gère de cette façon-là le gaspillage en donnant ses invendus.
Vous avez tout dit, Caroline. En fait, j'ai coutume de dire, même si l'image n'est pas très heureuse et peut gêner, que le méthaniseur et le ventre du pauvre sont les deux moyens d'optimiser le système agroalimentaire, parce qu'ils permettent de gérer convenablement les rebuts, c'est-à-dire les invendus, c'est-à-dire les choses qui ont passé la date limite de vente parfois, les choses que la société ne veut pas, qui avant terminaient leur carrière en déchets, enfouis ou brûlés dans les incinérateurs. Alors, a priori, on est dans une économie de marché, faut pas s'en choquer plus que ça, sauf que d'un point de vue symbolique, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est quand même terrible d'être nourri, d'être finalement... Enfin, on est à la fois, quand on est pauvre, quand on a peu de moyens, quand on est démuni, on est à la fois en marge de la société, en même temps, on en devient un élément majeur, parce que sans nous, le système agroalimentaire reviendrait plus cher, parce qu'il pourrait pas optimiser ses restes. Et d'un autre côté, donc symboliquement c'est assez difficile à gérer. Puis d'un autre côté, puisqu'il n'y a que des restes, on est nourri avec des restes, donc on n'a pas toujours le choix. Et ça, on le voit même, on peut critiquer la grande distribution, mais nous-mêmes, je mets un « nous » pour englober et accuser personne, quand, vous savez, il y a les caddies du Secours catholique, du Secours populaire, à l'entrée du magasin, qui nous demandent « remplissez-moi avec des produits pour les plus pauvres », très souvent, quand vous regardez bien, moi je le fais pas, enfin en tout cas je ne pense pas, on les remplit avec des produits bas de gamme. Quand on achète des pâtes, c'est les pâtes qui ne sont pas des meilleures marques, sont des pâtes qui sont des marques distributeurs. Donc on fait la même chose. On veut bien aider les pauvres, mais sans que ça nous coûte trop cher. Et encore une fois, oui, il faut se sortir de ce système qui a permis tout de même, qui a bien fonctionné pendant la grève, pendant la crise sanitaire. Tout le monde a eu peur qu'il y ait des gros problèmes d'approvisionnement pour les plus démunis. Ça n'a pas été le cas. La France s'est auto-organisée. La France est suffisamment riche pour avoir les moyens de nourrir tout le monde. Mais le corollaire, c'est que la crise sanitaire, et ça on le dit pas assez depuis un an, certes ça a touché les personnes les plus âgées, mais ça a surtout touché, pour les plus jeunes, les personnes qui sont affectées par la malbouffe, celles qui ont un diabète de type 2, celles qui ont
les obèses.
Les personnes obèses, les personnes en surpoids, les personnes en syndrome métabolique, toutes maladies qui sont liées à une mauvaise nutrition, parfois par une mauvaise habitude alimentaire, mais très souvent par manque de moyens. La pandémie de la Covid-19 a rencontré l'autre pandémie qui est celle de l'obésité, qui est aussi celle de la pauvreté, qui est celle de la malbouffe.
D'où cette enquête, et en même temps, en disant même d'où cette enquête, je me trompe, puisque cette enquête que vous avez faite tous les deux avec Boris Tavernier, Frédéric Dant et Alexis Génie a commencé et a même été finie avant même la pandémie que nous connaissons depuis un an et demi. Mais d'où quand même cette enquête, cette envie, pour montrer qu'on peut sortir du système, d'aller voir les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire. VRAC, c'est le premier, on le verra tout à l'heure, juste après la Madeleine réalisée par Matteo Caranta.
Pour faire changer le monde, il faut bien que des humains, les uns à côté des autres, ils prennent des décisions qui sont plus fortes que de voter. C'est l'effet de contagion ou c'est l'effet de tache d'huile d'olive qui fait que finalement le monde va changer parce que la prise de conscience des individus qui habitent cette planète est plus forte que les pouvoirs politiques.
Qui dit ça, me demande Alexis Génie. C'est Alain Ducasse qui dit ça. Et on vous fera réagir tout à l'heure. Mais d'abord, nous accueillons Matteo Caranta. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors, qui donc avez-vous rencontré cette semaine qu'il vous a raconté sa Madeleine ?
C'est le réalisateur Eric Toledano qui m'a confié sa Madeleine cette semaine. Une Madeleine qu'il a glissée dans Hors Normes, le dernier long métrage qu'il a co-réalisé avec son comparse Olivier Nakache, dans lequel son personnage Bruno, qui vient en aide aux enfants autistes, se retrouve souvent obligé d'accepter les présents, notamment les présents sucrés, que lui propose la mère de l'un des enfants dont il s'occupe. Une Madeleine pas tout à fait comme les autres.
Ma Madeleine, c'est un gâteau à l'ananas. C'est un gâteau très spécial que ma mère a fabriqué. C'était carrément un truc qu'elle a inventé. Je ne suis pas sûr qu'il soit référencé. C'est une pâte, des bouts d'ananas et du jus d'orange dessus. Alors, ça n'a pas l'air comme ça très appétissant, mais il se trouve que j'ai très vite aimé ces mélanges de goûts et qu'à chaque fois qu'il a fallu me faire plaisir dans mon enfance, ça revenait. Et d'ailleurs, j'en ai mis un clin d'œil pour ceux que ça intéresse dans un film qui s'appelle Hors Normes, où à un moment, Hélène Vincent, régulièrement, propose un gâteau à Vincent Cassel et elle est fragile et à chaque fois, lui dit c'est celui à l'ananas et il répond si c'est celui à l'ananas, alors Hélène, j'ai pas le choix.
Sinon, Bruno, j'ai fait le gâteau à l'ananas, celui que vous aimez bien.
Non, je vous remercie beaucoup, c'est adorable.
René, c'est pour vous.
Non, mais non, mais là, Hélène, c'est trop en plus. Si c'est celui à l'ananas.
À un moment, c'est devenu mon gâteau d'anniversaire. Donc, il a carrément une évolution sociale. J'aime bien ce gâteau, c'est mon gâteau d'anniversaire. Et aujourd'hui, quand ma mère veut me faire plaisir vraiment, ben, je sais qu'elle me dit, je t'ai fait le gâteau à l'ananas. Donc, je pense même à lui en faire 15 et à les congeler pour être certain d'avoir un jour ou l'autre la possibilité de retrouver cette saveur. Alors il est très rond, il est avec une pâte qui est un peu imbibée d'un espèce de jus d'orange que je mettrais un peu comme un banga des années 80 ou un fruité, quelque chose qui est en tout cas une boisson qui n'existe plus mais qui pourrait être équivalent à un jus d'orange. La pâte elle est, on dirait un peu comme une éponge, mais une éponge qui est gorgée d'un jus que quand on est petit on peut en boire 200 litres à peu près sans être satisfait encore ou repu. Alors les ananas ils sont frais. Ils sont croquants, c'est très croquant, et surtout c'est le mélange entre la pâte et l'ananas et le jus d'orange très imbibé qui fait qu'à un moment tout ça fait comme un éclat dans la bouche qui est magnifique.
Alors là je préfère quand même goûter le gâteau. Hein ? En plus, c'est celui à l'ananas, c'est ça ? Hein ?
Alors la fois particulière qui m'a marqué, elle est très récente, c'est que j'avais rien dit à ma mère et quand elle a été au cinéma voir le film, la fois d'après où j'ai été manger chez elle, elle m'a dit j'ai bien vu le clin d'œil de l'ananas et du coup je t'en ai fait un. Et il était un peu brûlé, et alors ça c'est pas mal, c'est de l'ananas mais un peu cramé comme ça et ça c'était encore meilleur.
Le gâteau à l'ananas et à l'orange d'Éric Toledano. Peut-être un gâteau qui peut rassembler toutes les classes sociales de la société. C'est à voir. C'est à voir. Donc reprenons notre tour de France, plutôt commençons notre tour de France avec vous, Frédéric Danhé et Alexis Génie, pour aller à la rencontre de tous ces projets solidaires et durables qui permettent de sortir de la précarité alimentaire et qui sont comme une alternative à l'aide alimentaire, puisque vous êtes allé rencontrer des passionnés, des enthousiastes et des militants. Commençons par le premier d'entre eux qui vous a servi donc de coach pour votre enquête. C'est Boris Tavernier et son association VRAC. VRAC, vers un réseau d'achat commun. De quoi s'agit-il, Alexis Génie?
Alors, c'est une association qui a pour but de vendre des produits alimentaires bio si possible, locaux si possible, dans les cités, c'est-à-dire vraiment dans les quartiers populaires, les quartiers qui sont en politique de la ville. Voilà. L'idée, elle est venue d'un bailleur social pour dire finalement, il y a une sorte de désert commercial dans ces zones-là et dans ces quartiers-là, et ça serait bien de pouvoir offrir aux gens quelque chose qui améliore un petit peu la vie. Et donc Boris, qui auparavant tenait un resto un peu collaboratif, donc s'engage là-dedans. Et va créer ce système, c'est-à-dire les gens doivent s'inscrire dans l'association, ça coûte 1 € par an, c'est vraiment symbolique. Ensuite, il y a un catalogue de produits qui viennent de producteurs proches, ça a commencé à Lyon. Et ils cochent ce qu'ils veulent, et tous les 15 jours, il y a une distribution de ces produits dans un centre social avec des permanents de l'association et des volontaires bénévoles. Et donc il y a une demi-journée ou une journée comme ça où les gens viennent et puis restent souvent beaucoup plus que simplement pour faire leurs courses. Et donc ça permet d'écouler ces produits qui sont des bons produits à des prix très très bas. Alors le problème du système, c'est que la structure, comment dire, les produits sont vendus sans marge. Donc la structure, elle va être financée par. Alors, quand on dit subvention,
c'est là que ça se complique.
Non, tout à fait, c'est compliqué. Mais après, il faut bien choisir le mot. On peut dire subvention. On peut dire aussi levée de fonds. Et ça change tout. C'est-à-dire que personne se pose la question si Médecins du Monde, la Croix-Rouge ou tout plein de d'ONG importantes vivent de subventions ou pas. On dit voilà, ce sont des levées de fonds. On a fait appel à des fondations, on fait appel à des mécènes, etc. On fait appel à des acteurs des pouvoirs publics, etc. Pour financer la structure. La structure, c'est finalement les permanents, les véhicules, les lieux de stockage. C'est quelque chose qui marche très très bien. Les bailleurs sociaux, les fondations, etc. sont vraiment financent ça. Et maintenant, il y en a à peu près une dizaine en France. Ça a commencé à Lyon. Et donc il y a dans une dizaine de villes en France et il y a des centaines et des centaines de participants, et ça marche vraiment extrêmement bien. Et l'important aussi, c'est que les gens qui habitent dans ces cités peuvent avoir un sentiment de relégation. Et là, il y a finalement les produits dont on pense qu'ils sont pour les bobos des villes. Ben non, en fait, tout le monde aime ça. Tout le monde aime les bons produits. Tout le monde aime des produits de qualité, de producteurs, etc. Simplement, si on habite dans ces cités, un, on n'a pas les moyens. Deux, le magasin, il n'est pas là. Et on ne va pas traverser la ville pour aller le chercher. Là, ça vient tous les 15 jours et c'est un prix tout à fait raisonnable.
C'est donc un moyen de rendre accessible des bonnes choses absolument à tout le monde.
Un accès digne à des produits de qualité, comme le dit ce slogan qui est en fait celui du Secours catholique, mais qui est pour nous est une évidence. Voilà, c'est un slogan humaniste en fait et social.
Frédéric Danhé, autre chose qui marche bien et que vous êtes allé voir, c'est le modèle coopératif, les supermarchés coopératifs, la Louve, la Cagette à Montpellier, Johnny Cop à Saint-Denis. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, alors modèle coopératif, effectivement, ça marche parce que ça permet d'acheter, c'est toujours pareil, hein, ça permet d'acheter à prix plus bas, et ça permet de vendre sans aucune marge, sans beaucoup de charges salariales, sans beaucoup de frais de structure à des gens qui ont peu de moyens. Alors ça marche, mais avec un paradoxe, c'est que quand c'est conduit avec les meilleures intentions par des gens qui veulent symboliquement, qui veulent sauver le monde, qui veulent sauver les plus pauvres, mais qui mais qui l'affiche du coup directement dans le magasin, dans la façon dont le magasin est organisé, dans le type d'affiche, dans le type de slogan que l'on trouve, eh bien on se retrouve avec des structures qui peuvent faire peur d'un point de vue culturel aux gens les plus démunis, qui sont là simplement, qui ont juste besoin d'avoir accès à des produits de qualité, moins chers, discrètement, sans qu'on leur fasse la leçon. Et ça peut être un travers justement dans l'aide alimentaire, dans l'aide aux autres, qui est celui de, non pas de donner une leçon, mais d'emballer, enfin, comment dirais-je, oublier leur cible, qui sont les gens les plus démunis et qui ont envie d'être considérés sans qu'ils aient l'impression qu'on leur donne une leçon. Et ça, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, que VRAC a trouvé. VRAC donne pas de leçons. Voilà, vous venez, vous achetez, vous rendez un service. VRAC, c'est un bon exemple parce qu'on considère les gens pour ce qu'ils sont. C'est pas de la charité qui est dans un seul sens et qui bénéficie malheureusement souvent à la personne qui l'offre, cette charité. Alexis a employé le terme dignité, c'est bien ça. La plupart de ces structures, en particulier VRAC ou ma petite échoppe à Anthony dont on va parler, je pense, voilà, donnent de la dignité aux gens parce qu'ils sont considérés comme des consommateurs. C'est finalement le bon côté de l'économie de marché. Les gens qu'on est allé voir dans le pour ce livre, ils veulent être considérés certes comme des citoyens, certes comme des hommes et des femmes, mais avant tout comme des consommateurs comme les autres. Et les structures qui leur permettent juste de consommer, point final, des produits de meilleure qualité sont des structures qui marchent et des structures pérennes. Et c'est le grand mérite, c'est la grande réussite de VRAC. C'est la réussite de la plupart des structures que l'on a vues, mais qui parfois, encore une fois, butent sur un problème de devanture, si j'ose dire.
D'affichage.
Il faut que ce soit... Oui, d'affichage, c'est-à-dire il faut que ces structures n'aient pas l'air d'être juste des entrepôts de distribution de nourriture ou alors des lieux symboliquement bobos, intellectuellement,
c'est l'équilibre
ou logiquement trop éloignés.
L'équilibre est difficile à tenir, Alexis.
Absolument. Oui, tout à fait. En fait, dans la société française, il y a des cloisons de verre. Il y a des, c'est-à-dire on a des groupes sociaux qui sont un peu étanches les uns aux autres. Et ça, il faut vraiment le concevoir. Par exemple, la cagette à Montpellier, ça marche très 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 bien. Mais c'est vrai qu'on leur posait la question, est-ce que les gens des cités viennent ici? Ben non. En fait, à Montpellier, ville un peu inégalitaire, avec donc une grande masse de pauvres et une grande masse de gens qui sont suréduqués, des bacs plus 10, etc., parce qu'il y a plein de centres de recherche, etc., ben, il y a toute une population d'intello précaires, ces gens qui sont bac plus 10 et qui gagnent à peine le SMIC, et qui sont déjà préparés à cette idée de collaboratif, de coopératif, etc. Et donc, ils viennent là. Mais c'est vrai que c'est vraiment, y a une étanchéité entre les différents groupes sociaux.
Frédéric Danhaye citait Ma Petite Échoppe. Ma Petite Échoppe est à Anthony. C'est pas un supermarché coopératif. Ma Petite Échoppe, c'est une épicerie sociale et solidaire. Vous avez eu un coup de cœur tous les deux pour cette épicerie particulièrement jolie et agréable parce que justement, elle maintient cet équilibre rapidement.
Tout à fait, oui. Alors c'est quelque chose qui est soutenu par la mairie. C'est vrai, un vrai projet social qui a été pensé profondément.
Pourtant pas dans un quartier spécialement pauvre.
Non, c'est tout à fait. C'est une ville où il y a de la pauvreté aussi, comme dans toutes les villes de banlieue parisienne. Donc, il y a quelqu'un qui était envoyé par le Secours catholique, qui a réfléchi avec les habitants pendant, je ne sais plus combien de temps, mais genre un an ou deux, pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait véritablement. Et ils ont pensé tous les obstacles. Et par exemple, un des obstacles, c'est de faire quelque chose qui soit trop, comme dit Frédéric, trop militant, écolo, etc., qui ne parle pas à tout le monde, quoi. Et donc là, c'est quelque chose qui n'est pas en gare non plus. C'est quelque chose de simple et beau.
Sobre et élégant,
absolument, bien fait, où les gens peuvent venir choisir et acheter des produits. Simplement, quand ils sont vraiment pauvres, il y a des réductions importantes.
La devise de Fanny, sa créatrice, c'est « Nous ne sommes pas là pour nourrir les pauvres, mais pour que des gens précarisés retrouvent leur dignité. » Et c'est l'idée de ce livre que vous avez fait tous les deux avec Boris Tavernier de VRAC, Frédéric Dan et Alexis Génie, « Ensemble pour mieux se nourrir, enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire » paru aux éditions Actes Sud. Un grand merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
« Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec l'équipe Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour Baptiste Lénard. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, vous retrouverez bien sûr Marc Weitzman et Signe des Temps.